Info sur VO1 Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre commence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, retour sur le naufrage dramatique en mer Méditerranée qui aurait fait près de 700 morts. Au Burkina Faso, les familles des personnes tuées pendant l'insurrection ont porté plainte. Les accords de paix au Mali seront-ils signés un jour? Analyse et réaction en provenance de Bamako. Enfin, les enfants sont particulièrement touchés par le conflit avec Boko Haram. Nous ouvrons l'émission sur le drame survenu le week-end dernier en mer. Le naufrage d'un chalutier au large de la Libye aurait fait près de 700 disparus. Suite à cette tragédie, la Commission européenne a présenté 10 propositions d'action pour lutter contre le trafic de migrants et empêcher les candidats à l'immigration de risquer leur vie pour rejoindre l'Italie. Idriss Fall.
Ces 10 points seront discutés lors du sommet extraordinaire des dirigeants de l'Union européenne prévu jeudi à Bruxelles. Le président français, François Hollande, pointe du doigt les trafiquants.
Nous devons là aussi renforcer le nombre de bateaux qui sont dans le cadre d'une opération qui s'appelle Triton. Donc plus de bateaux, plus de survols par des avions et puis également une lutte beaucoup plus intense par rapport au trafic. Parce que ceux qui mettent des personnes sur des bateaux, ce sont des trafiquants, même ce sont des terroristes, parce qu'ils savent parfaitement que ces bateaux sont pourris et qu'ils vont même les détruire en pleine mer et mettre des centaines de personnes en danger, en l'occurrence là, en danger de mort.
L'Italie travaille avec Malte pour tenter de sauver deux autres embarcations en difficulté au large de la Libye. Zaïd Raad al-Hussein, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonce les politiques cyniques de l'Union européenne et accuse Bruxelles de transformer la Méditerranée en un vaste cimetière.
Direction le Burkina Faso à présent. Les députés de la transition ont interpellé le gouvernement au sujet des personnes tuées pendant l'insurrection populaire. Les familles ont porté plainte pour que justice leur soit rendue. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wanogo.
Questions orales avec débat. C'est à cet exercice que les députés de la transition ont convié le gouvernement sur l'évolution du dossier des victimes de l'insurrection. En l'absence du ministre de la Justice, c'est son collègue de l'enseignement supérieur qui est venu répondre. On écoute les réponses du ministre Michel Filigas Sawadogo.
La situation est un peu plus délicate. Dans les premiers jours, c'était la poursuite de la lutte parce que déjà la communauté internationale était là pour dire qu'il faut faire revenir le président de l'Assemblée nationale, etc. Donc ça fait que personne n'a pris la précaution de recueillir beaucoup d'éléments. Donc c'est maintenant qu'il faut rechercher et donc c'est pas facile. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses à l'étape actuelle. Mais bon, on est quand même sûr qu'avec la mobilisation des différents cabinets d'instruction, des choses seront trouvées et puis on pourra avancer. Donc voilà, c'est une réponse un peu générale, mais c'est ce qu'on peut dire à ce stade-là, d'autant plus que les éléments recueillis ont un caractère confidentiel.
Le député, auteur de la question, est-il satisfait des réponses? A demandé le président de séance. Suivons l'avis du député, auteur de la question. Il s'appelle Casimir Sawadogo.
Et satisfait, je dirais, à 80%. Et je sais qu'il y a quelque chose qui est fait, mais je me dis qu'il faudrait beaucoup plus aller très vite. Aller très vite à court du temps qui nous reste. Aller très vite pour que les cœurs puissent s'apaiser. La question concernant les martyrs, je pense que c'est une question primordiale de l'insurrection. Si nous sommes ici au CNT, c'est grâce à des gens qui sont acceptés de se sacrifier. Et c'est à cause de tout ça que nous voudrions véritablement que la lumière soit faite autour de tous ces événements-là.
Cela a ainsi ouvert les débats et le député Bakary Koné a dit ceci.
Il faut véritablement la création des tribunaux spéciaux qui puissent plancher sur les crimes de sang qui sont intervenus, les 30 date de 31 octobre 2014. Ça devrait être une priorité pour la transition.
Nous sommes alors repartis vers le ministre Filiga Savadogo pour savoir ce qu'il pense de la proposition sur les tribunaux spéciaux.
En fait, les tribunaux spéciaux, ce sont des tribunaux qui peuvent fonctionner rapidement sans respecter peut-être un certain nombre de procédures. Cela n'était pas souhaitable dans l'état d'évolution de la question des droits humains, dont les droits liés à la justice dans notre pays. Ce que nous devons faire, et c'est ce qui est en train d'être fait, c'est de tout mettre en œuvre pour que les juridictions de droit commun, les juridictions habituelles, puissent fonctionner rapidement et connaître de ces affaires-là et les trancher de façon juste et équilibrée.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Nous sommes au Mali pour notre dossier. La cérémonie de signature de l'accord de paix est prévue pour le 15 mai à Bamako. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé cette date annoncée par la médiation algérienne. Mais l'accord d'Alger n'a toujours pas été paraphé par la coordination des mouvements de l'Azawad. Le point de vue de Shahana Takiou, directeur du journal Le 22 septembre à Bamako.
La médiation algérienne a échoué. Il faut avoir le courage de le dire. Comment est-ce que on peut inviter le gouvernement du Mali et les différents mouvements armés à signer un accord le 15 mai, alors que la partie significative du conflit, qui constitue la coordination du mouvement de l'Azawad, a refusé de paraffer le document? Pour qu'il ait signature, il faut qu'il ait paraphe. La coordination du mouvement de l'Azawad demande qu'il ait l'ouverture de nouvelles négociations. Au lieu que la diplomatie algérienne s'active pour convaincre ces rebelles-là, elle décide de façon unilatérale une date pour signer la paix. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable.
Mais pourtant, le président Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé cette date.
Ibeka a confirmé cette date. Ibeka est aligné sur la position algérienne. Supposer que cet accord-là soit signé, comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre sans une partie significative du problème que constitue la coordination du mouvement de l'Azawad? Si eux, ils ne sont pas là, comment est-ce qu'on va faire la démobilisation, le cantonnement, le désarmement, la réintégration, l'intégration? Et c'est dommage que le président du Mali envoie le pas à l'Algérie en applaudissant cette proposition de l'Algérie. On ne prépare pas la paix de cette manière-là. Il faut prendre encore le temps pour convaincre les gens, les convaincre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une phase où on peut montrer les muscles à aller à la guerre. Non, on a dépassé la période de la guerre. Nous sommes dans un processus de paix, un processus de réconciliation nationale. Il faut prendre le temps qu'il faut, négocier. L'Algérie a les moyens qu'il faut pour amener ces gens-là à la raison.
Il y a quand même quelques dissensions au sein de la convention des mouvements de l'Azawad. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec le MNLA.
Non, les gens disent qu'il y a dissension. Qu'on nous prouve qu'il y a des dissensions à la fin. C'est vrai que s'il y a un groupe, il peut avoir des points de vue divergents. C'est inhérent à une telle démarche qu'il y ait des points de vue divergents. Cela veut dire que quelque part, la majorité l'a remporté, une majorité qui dit qu'il ne va pas paraffer le document, qu'il ne va pas signer le document, et nous sommes dans cette situation-là. Et je ne vois pas comment est-ce que la coordination du mouvement de l'Azawad pourrait signer le document le 15 mai.
Est-ce qu'on ne peut pas les ramener à de meilleurs sentiments d'ici le 15 mai alors?
C'est ce qui est souhaitable. D'ici le 15 mai, arriver à les amener à de meilleurs sentiments pour paraffer le document, cela veut dire que la signature serait reportée, de mon point de vue.
Shahana Takiou, directeur du journal Le 22 septembre à Bamako. La signature de cet accord a bien été confirmée par les autorités maliennes, mais que pense la population? Notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, est allé leur poser la question et les avis sont partagés.
Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé ce dimanche la signature officielle à Bamako de l'accord de paix le 15 mai prochain avec les groupes armés du Nord. Nous avons tendu notre micro à des personnes dans la ville de Gao. Les uns gardent espoir et souhaitent que cette signature soit une réalité afin qu'ils puissent vivre dans la tranquillité.
Nous vivons dans l'agonie parce que nous vivons très mal, nous nous sentons très mal, nous vivons de jour en jour. la vie est dure. Mais on est obligé de nous accrocher. Pour moi, le 15 mai est très loin. Si les frères ont accepté même de signer aujourd'hui, que tout le Mali se réunit aujourd'hui, qu'on oublie le passé, qu'on travaille sur le présent et le futur, qu'on pense au futur, à nos enfants. Donc vraiment, s'il y a eu la paix, c'est qu'on sait, nous serons tous très contents.
Je suis à Gao depuis bientôt 2 ans, après avoir servi le Mali pendant 37 ans. Le Mali est un havre de paix. Le 15 mai, je crois que c'est la dernière cartouche que le président de la République, le gouvernement malien et tout le peuple malien donne à nos frères pour s'agripper au désormais bateau qui va conduire à la paix définitivement et au développement du Mali tout entier. J'ai bon espoir que le 15 mai sera la date de toutes les chances, de toutes les attentes. Le soleil sont Touareg, le Touareg sont soleil, l'Arabe sont soleil, l'Arabe sont Touareg et nous avons toujours vécu dans cette harmonie qui a toujours fait notre force et notre unité.
Les autres sont partagés entre pessimisme et inquiétude. Que se passera-t-il si cet accord est signé sans les autres? Va-t-on à la guerre? Voilà certaines questions qu'ils se posent.
Je ne fais plus confiance à cet accord-là. Parce qu'il y a eu des accords par le passé, je crois 3 ou 4, qui ont tous échoué. Donc je n'ai pas confiance. On n'a pas besoin seulement de signatures. On a besoin de vivre. Le 15 mai, ce serait du théâtre parce que déjà, le gouvernement dit qu'il va signer avec ceux qui sont d'accord, les mouvements armés qui sont d'accord. Ça, déjà, c'est un échec. Tous les groupes armés confondus, en dehors des terroristes, doivent participer à la signature. S'il y a un seul qui n'est pas dans le lot, c'est un échec. Bon, s'il n'y a pas d'accord, je crois que nous, on est presque mort. Hein. On voit l'avenir sombre, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Surtout cette année, c'est l'année la plus difficile pour le Nord, parce qu'il y a l'insécurité, il y a la sécheresse, il y a les animaux qui ont commencé déjà à mourir. Donc cette année, c'est l'année la plus difficile, je dirais, que le Mali va connaître vraiment. Surtout au Nord. Vraiment, nous, au Nord, on est mort. Sans accord, on est mort.
En tout cas, la situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante, puisqu'aujourd'hui encore, dans la matinée, un camion de fournisseurs civils de la MINUSMA a été attaqué à l'ouest de la ville. Le chauffeur a été froidement abattu et le camion brûlé. Cela s'est produit presque au même endroit où, le vendredi dernier, 2 chauffeurs ont été abattus par des individus qui circulaient en moto. Gabo Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le phénomène Boko Haram continue d'avoir un impact catastrophique au Cameroun. En plus de l'afflux des réfugiés, du déplacement des populations locales, les incursions du groupe islamiste nigérian affectent sérieusement une situation socio-économique déjà précaire dans le nord et l'extrême nord de ce pays. Christopher Fumunyo, directeur Afrique du National Democratic Institute et président de la fondation portant son nom, y a récemment séjourné, notamment à Maroua, capitale de l'extrême nord camerounais. Au micro de Timothée Donangmaï, voici son témoignage.
J'ai rencontré des populations, j'ai parlé avec les enfants, notamment j'ai visité ce centre pour l'enfance à Maroua où se trouvent près de 80 enfants qui avaient été récupérés par les forces armées camerounaises en novembre 2014 lors d'une intervention dans la ville d'Amchedi. Ça m'a permis de voir comment les enfants, déjà à partir de leur bas âge, peuvent être déconnectés de la société humaine, ce qui renforce effectivement cette appréhension qu'on les préparer pour être déconnecté de la vie sociale et donc peut-être plus apte à mener des activités avec les groupes extrémistes dans l'avenir.
Qu'est-ce que vous avez constaté comme effort au plan local pour justement mettre les populations camerounaises en garde contre l'idéologie de Boko Haram?
J'ai reçu beaucoup de jeunes leaders de la société civile qui sont venus de tous les départements de l'extrême nord du Cameroun, mais retrouvés à Maroua. On a échangé avec eux, ils sont en train de mener des activités sur le terrain, dans les écoles, des séminaires, des conférences pour susciter l'adhésion des jeunes à l'éducation et à la vie normale et pour éviter à ce qu'ils ne soient tentés par l'idéologie extrémiste. J'ai visité beaucoup de lycées où j'ai fait des dons au nom de la Fondation Fomonyo, qui est une fondation dont le siège est à Bamenda, dans le nord-ouest Cameroun. J'ai tenu à travers ce geste renforcer le message à la jeunesse camerounaise et notamment dans cette partie du pays que l'éducation porte et que c'est important de rester discipliné, de rester à l'école, de bien étudier parce que c'est comme ça qu'on peut forger son avenir. C'est pas en comptant sur les groupes comme Boko Haram ou d'autres groupes extrémistes parce que ça ne paye pas à la longue. C'est d'une force destructive et il faut rester focalisé sur l'éducation et sur l'école.
Il faut dire qu'au plan de l'éducation, l'extrême nord du Cameroun est encore à la traîne par rapport au reste de la nation.
Effectivement, j'ai constaté que puisque je suis monté dans l'extrême nord avec beaucoup de compatriotes venus de Yaoundé, de Douala et même de Bamenda, qui étaient un peu surpris de la condition de vie dans cette partie du pays. Et je me suis dit que effectivement, la crise Boko Haram est venue exacerber la situation difficile que vivent les populations dans cette partie du pays. Et je me dis qu'il faudra que les Camerounais soient sensibilisés sur le drame de Boko Haram pour qu'on soit mieux préparé à gérer les conséquences négatives de cette crise une fois qu'on aurait réussi à éliminer la menace Boko Haram sur le plan militaire ou sur le plan purement sécuritaire. Donc, il y a des dégâts qui ont été commis sur le plan économique, sur le social. Il faudra du temps pour ramener ces populations à la vie normale. Et nous devrons beaucoup investi, l'État comme la société civile a ramené une certaine normalité dans la vie dans cette partie du pays.
Christopher Fomugno, directeur Afrique du National Democratic Institute et président de la Fondation Fomugno. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec la grande chanteuse malienne Kaira Arbi et son titre Amandia. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Hey baby,